La revue de presse avec vous. Bonjour Boris Allier.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Un mot à la une des journaux ce matin, survivre.
Oui, survivre en temps d'épidémie, c'est ce qui anime une partie du monde depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, Eric, Patricia, je ne sais pas si vous êtes fait la bise ce matin.
Non, on s'est checké
le coude.
Vous suivez
plus
les recommandations donc. La pratique de la bise, en tout cas, risque bien de devenir exceptionnelle. Le site Slate l'a bien observé et il réhabilite la théorie du psychologue Abraham Malo, auteur de la pyramide des besoins, une théorie qui hiérarchise les besoins de l'être humain. À la base, les besoins physiologiques, se nourrir, dormir, puis le besoin de sécurité. Viennent ensuite les besoins d'appartenance, de reconnaissance et d'accomplissement de soi. Le modèle est depuis des années remis en cause par la communauté scientifique. Je vous passe les différents arguments. Mais pour Slate, l'épidémie de coronavirus rebat les cartes. Désormais, rien d'autre ne compte que de survivre, écrit le chercheur Philippe Mouillot. Les denrées alimentaires sont redevenues la priorité pour rester en sécurité chez soi. Le besoin d'appartenance conforte sa place au niveau 3. Quant à la reconnaissance et à l'accomplissement de soi, cela viendra en temps voulu.
Oui, précisément, alors que des millions d'Italiens sont placés en quarantaine, que les cinémas, les théâtres et les musées sont fermés dans le pays, certains sont déjà prêts.
Oui, les survivalistes, à l'image de l'ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet, ils en sont convaincus. Il faut se préparer en cas d'effondrement de notre civilisation. Hasard du calendrier, un salon leur est dédié à Paris dans 2 semaines. Le magazine Du Monde nous apprend que malgré l'épidémie, l'événement est pour le moment maintenu. Et le Parisien, aujourd'hui en France, nous fait rencontrer Bruno, un ancien CRS qui habite près de Roanne, dans la Loire. Un homme paré pour l'apocalypse, des idées noires plein la tête. Le sexagénaire a bâti un hangar pour protéger toutes les denrées qu'il a accumulées, des masques, des gants, du matériel médical, évidemment de la nourriture. Son objectif, être autosuffisant pendant plusieurs semaines, car dit-il, tout peut partir en cacahuète. Bruno pense au dérèglement climatique, au risque nucléaire, et l'épidémie de coronavirus est venue alimenter sa psychose.
Mais ça fout les jetons, hein, comme on dit à la machine à café. Un virus qui a un nom, le virus du repli sur soi.
C'est ce que l'on peut lire à la une de Paris-Normandie, alors que Centre Presse dans l'Aveyron note que sur le marché de Rodez, on se serre encore la main. Rodez, dernier bastion de la sociabilité, ça peut paraître anecdotique, mais ça en dit long sur l'impact social de l'épidémie. Et ce, jusqu'au sommet de l'État. Un protocole de vigilance s'est mis en place autour d'Emmanuel Macron, indique l'Élysée au Journal du Dimanche. Le président ne serre plus de main, n'embrasse plus et reste à une certaine distance, y compris lors des réunions. Alors en fait-on vraiment trop sur le coronavirus, s'interroge le JDD. Pour l'infectiologue François Bricaire, oui, le gouvernement en fait trop, mais il n'y a pas le choix. Il faut bien protéger les personnes fragiles. Les mesures de confinement peuvent être utiles, mais le professeur préfère relativiser. Le virus, on ne l'arrêtera pas. Et il est bénin. 98% des personnes touchées en réchappent.
Certes, mais les mesures de confinement bouleversent les échanges mondiaux.
La mondialisation est à l'arrêt, selon Challenge, qui évoque l'électrochoc subi par l'industrie française. Les équipementiers automobiles notamment s'inquiètent. Vont-ils recevoir les pièces nécessaires fabriquées en Chine? L'économiste Patrick Artus, lui, estime que l'épidémie peut accélérer le phénomène de déglobalisation avec une réflexion sur les stratégies d'approvisionnement. Des stratégies pour survivre, pour durer. Certaines entreprises qui paraissent inébranlables en ont bien besoin. On pense à Facebook, Apple, Google, des colosses au pied d'argile. Dossier complet à lire dans le hors-série du magazine Pour l'écho sur ces groupes qui doivent se réinventer en permanence pour survivre. Exemple avec Tesla, numéro 1 des véhicules électriques aux États-Unis et qui, pour le rester, mise sur la production de masse.
Enfin, lui a peut-être survécu. On parle du tigre de Tasmanie.
Un animal étrange, mélange de hyène, de chien et de tigre. Les Australiens n'en ont pas vu depuis plus de 80 ans, au point qu'il est considéré comme disparu à tout jamais, victime de la chasse intensive. Pourtant, certains sont convaincus que le tigre de Tasmanie existe encore et on voudrait les croire. Le magazine Society nous emmène en Australie à la rencontre de ceux qui donneraient tout pour l'apercevoir. L'un d'eux se nomme Neil Waters, persuadé de l'avoir croisé à 2 reprises sans pouvoir le prendre en photo. Le tigre de Tasmanie, une véritable obsession pour lui, qui a acheté des caméras caméras thermiques pour faire le travail que la science refuse de faire. Malheureusement, le sénateur écologiste Bob Brown vient doucher ses espoirs. Cet engouement pour l'animal disparu n'est autre qu'une volonté de soulager un sentiment de culpabilité, celui, dit-il, que nous, descendants d'anglais, avons tout détruit ici, la faune et la flore.
C'était la revue de presse de Boris Allier.